Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es.
Voix.
Chantal Laureau.
Bertrand Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po, HEC et en Seine-Saint-Denis. Et après un premier livre, La parole est un sport de combat, vous publiez Sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous dédiez votre livre à vos parents qui, écrivez-vous, m'ont transmis la délicieuse obsession du mot juste. Comment s'y sont-ils pris pour vous donner le goût des mots et le goût des mots justes?
Et tout simplement à la table familiale, lorsqu'on avait une discussion, et on se forçait les uns et les autres à trouver le bon mot, celui qui existe, dont on sait confusément qu'il existe, mais qu'on ne trouve pas forcément au premier instant. Et mes parents me disaient, mais non, mais il y a un meilleur mot pour ça, il y a un mot plus juste, trouve le mot juste. Et donc je leur ai justement dédié ce livre en souvenir de ces discussions.
D'où le titre aussi de votre livre.
Bien sûr, le plaisir du mot juste, parce que quand on l'a cherché longtemps, on a plaisir quand on l'a trouvé.
Alors, votre livre est une déclaration d'amour aux mots de la langue française, et c'est une déclaration enflammée. Vous évoquez une source permanente d'émerveillement, de plaisir, de griserie inépuisable. Vous êtes avocat, les mots sont vos outils de travail, mais votre passion pour les mots dépasse bien évidemment votre cadre professionnel.
Oui, bien sûr. Alors, pour les avocats, les mots sont un outil de travail, c'est presque une matière première, à la fois ce qu'on écrit et puis ce qu'on plaide, mais ça va bien au-delà. Si j'enseigne l'art oratoire, c'est-à-dire quelque chose qui passe par la parole, c'est aussi parce que les mots, c'est les briques de la parole. Si on peut avoir beaucoup d'outils et de lexique large, on va avoir une pensée plus fine et un discours plus riche.
Qu'est-ce qu'elle permet, cette quête du mot, justement, à laquelle vous nous invitez dans votre livre?
Elle permet en réalité un très grand confort, parce qu'une fois qu'on a le mot juste, celui qui exprime au plus près votre pensée, on peut débattre. Et souvent, le débat et les malentendus naissent du fait qu'on n'a pas les mots, qu'on n'a pas un lexique suffisamment large et qu'on vit avec 2000, 3000 mots, alors qu'il y a 60 000 mots dans la langue française. C'est-à-dire qu'on vit avec la partie émergée de l'iceberg, et si on allait chercher un peu en dessous, sans chercher des mots forcément très érudits ou très rares, je pense qu'on exprimerait mieux sa pensée et qu'il y aurait moins de malentendus.
Est-ce que la tendance est à l'appauvrissement du vocabulaire ou est-ce qu'au contraire, les choses sont en train de bouger?
La langue française est mobile, c'est pas un objet de musée. Donc il y a chaque année des mots nouveaux qui reflètent l'évolution de notre société. Ma crainte, c'est qu'il y ait aussi des mots qui sortent des dictionnaires parce que on les utilise pas. Et donc, si on n'utilise pas les mots, eh bien, ils meurent parce que les mots ne vivent que d'une chose, c'est de l'usage qu'on en fait. Si on n'utilise pas un mot, il meurt et il y a des espèces menacées aussi dans les mots.
Alors justement, vous dites, soyons des écologistes des mots.
Mais oui, parce qu'on protège les espèces et c'est bien normal, parce qu'elles sont menacées par la modernité, mais parfois les mots aussi sont un peu menacés par la modernité, par une sorte de paresse dans laquelle je m'inclus bien volontiers, où on prend le premier mot qui vous vient. Prenez par exemple les mots avoir, être, faire et mettre. Eh bien, ils peuvent toujours être remplacés par un mot juste, plus précis, plus exact, plus joli. Eh bien, faites ce petit exercice désormais. À chaque fois que le mot avoir, être, faire, mettre ou dire vous vient, dites-vous, ah, est-ce qu'il n'y a pas mieux que ce mot-là?
Et alors, quels sont les mots en voie de disparition, les espèces menacées? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Oui, mais il y en a énormément. J'en donne quelques-uns dans le livre. Mais par exemple, je sais pas, évergette, par exemple. Alors, c'est un mot très rare, très joli, qui veut simplement dire un mécène. Mais on peut aussi dire évergette, fuligineux. Fuligineux, c'est magnifique. Ça veut dire noir comme la suie. Mais plutôt que de dire noir comme la suie, c'est-à-dire quatre mots, ou noir, mais aussi matériel et aussi un peu scintillant, c'est-à-dire ce que ça veut dire, on dit fuligineux et on s'est compris.
Alors, quels sont les mots que vous avez découverts récemment et que vous avez regretté de ne pas avoir connus plus tôt?
Oh, mais il y en a plein. Raque de naze, par exemple, c'est un mot rigolo, parce que d'abord, sa sonorité est amusante. Ça veut dire rupin, radin. Ou alors, roquentin. J'ai découvert ça récemment. Ça veut dire, c'est un vieux qui se prend pour un jeune, en fait. C'est une sorte de vieux beau. Donc, voilà, la langue française regorge de ces mots. Alors, ils sont pas toujours très usités. Il y a des mots qui sont dans dans des jargons professionnels, et notamment chez les avocats, qui sont ni très beaux, vous n'aimez pas savoir ce que c'est qu'une antichrèse ou un anatocisme, parce que c'est des mots juridiques, ça n'a pas d'intérêt. Mais un roquentin, bah, je trouve ça très beau pour dire un vieux beau.
Et quels sont les mots nouveaux qui vous réjouissent ?
Oh bah, y en a plein des mots nouveaux qui réjouissent. En fait, ce qui me réjouit, c'est pas forcément des mots nouveaux par eux-mêmes, c'est des mots qui sont nouveaux pour moi. Parce que à chaque fois que je découvre un nouveau mot, je me dis, tiens, quelle est son étymologie, d'où il vient, quelles sont ses origines, et ça m'amuse beaucoup. Après, dans les mots nouveaux, il y en a plein. Il y a adolescent, par exemple. Vous savez, c'est cette façon qu'ont les adultes de se prendre, justement, pour des adolescents. Et ça donne adolescent. C'est assez joli parce qu'il y a un jeu, non seulement de sens, mais de sonorité.
Alors, vous parlez aussi de nomophobie.
Ah oui, alors la nomophobie, ça c'est vraiment la preuve que la langue française est très malléable et ouverte à toute la modernité. C'est un mot nouveau qui vient d'entrer dans le dictionnaire, ou en tout cas qui vient d'être inventé, et c'est un phénomène dont je suis moi-même atteint. C'est pour ça que c'est extraordinaire, on est atteint de mots dont on ne connaît pas le nom, alors même que il faut des mots pour décrire les mots, M-O-T-S pour M-A-U-X, et la nomophobie, eh bien, c'est l'angoisse que l'on a à être éloigné de son téléphone portable. Et donc, tous les jeunes, enfin beaucoup de jeunes, on a l'impression que pour eux, que leur téléphone portable est un prolongement de leur corps, c'est quasiment un organe à part entière de leur physiologie, et donc ils souffrent parfois, et je souffre aussi parfois, de nomophobie, la crainte d'être éloigné de son téléphone portable.
Alors, quels sont vos rapports avec les réseaux sociaux ?
Oh, ils sont très apaisés. Je suis pas un grand pratiquant des réseaux sociaux. Je suis croyant, mais pas pratiquant ou peu pratiquant. Mais dans le rapport à la langue, les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il y a dans les réseaux sociaux un encouragement à l'invective. C'est le bac à sable de la pensée. Mais malgré tout, donc on s'y invective, on s'y injurie, on s'y empoigne avec ce que permet aussi l'anonymat, ce que permet l'écrit dans les réseaux sociaux. On réfléchit à un tweet, puis quand on le trouve bon et suffisamment acerbe et suffisamment percutant, on le publie. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'algarade permanente,
Et vous dites que Twitter favorise le mot d'esprit, par exemple.
Mais je trouve aussi qu'en contrepartie, comme on a très peu de signes, on a 280 caractères pour s'exprimer, il y a des saillies sur Twitter que je trouve parfois extrêmement drôles.
I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
In the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ?
Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
L'usage de la force ne se justifie pas. Il y a une alternative à la guerre. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble devrait consentir à la précarité? Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel?
Vous les avez reconnus, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Simone Veil, Thomas Sankara, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Christiane Taubira. Leurs discours sont entrés dans l'histoire. Bertrand Perrier, est-ce qu'il faut être un tribun pour être un grand homme ou une grande femme politique?
Oui, inévitablement, pour une raison simple, c'est que, au moins dans un régime démocratique, l'élection, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir, a partie liée avec le discours. Et il y a dans le discours politique une façon de conquérir. C'est par le discours que l'on conquiert l'électorat. Et il y a même dans la démocratie et le pouvoir politique l'idée que le discours peut avoir un impact sur le réel. C'est ça le pari de la vie politique. Et donc, inévitablement, oui, tous les grands hommes politiques sont des tribuns, et même, et pire là, les dictateurs, qui sont tous des tribuns exceptionnels. C'est-à-dire que la parole est une arme dont on peut faire aussi un mauvais usage.
Et vous vous posez la question justement, vous vous dites, les jeunes aujourd'hui à qui j'enseigne l'art oratoire, que vont-ils faire ou que pourraient-ils faire un jour de ce que je leur ai enseigné ?
Oui, c'est comme quand vous apprenez à quelqu'un à manier une arme. On peut considérer que c'est un sport de self-défense. On peut aussi considérer que ça servira à agresser autrui. C'est une question morale que je me pose souvent. Je préfère, malgré tout, prendre ce risque plutôt que de laisser ces jeunes gens désarmés et stigmatisés parce qu'ils ne sauraient pas parler.
Dans votre livre, vous ne cachez pas votre admiration pour Barack Obama. Vous avez eu l'occasion de l'entendre à Paris, à la Maison de la Radio.
Absolument.
Il vous a visiblement épaté. Pourquoi ?
Bah, d'abord, il y a la partie mythologique quasiment de Barack Obama, ou mythique en tout cas, de Barack Obama. J'avais tellement envie de le voir, il y avait une attente. Et puis après, bah oui, c'est quand même extraordinaire. Je dis tout de suite que le discours qu'il avait tenu ce jour-là, sur le fond, n'était pas inoubliable. Mais dans la forme, c'était extraordinaire parce que je découvrais d'abord physiquement l'allure, le charisme, l'aura, et puis ces techniques qu'il a. Vous savez, il lit son discours sur des prompteurs transparents, c'est-à-dire que il se permet grâce à ces prompteurs sur lesquels défile son texte de regarder à travers des petites plaques en plexi sur lesquelles donc le texte défile pour regarder son public néanmoins.
Un à droite et un à gauche. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les orateurs sont en déclin dans le monde politique, qu'ils sont moins bons qu'avant?
C'est cruel de le dire et c'est pas forcément vrai. Il y a toujours eu dans une génération d'hommes politiques des grands tribuns et des orateurs plus modestes. En réalité, ce qui fait la parole politique, c'est la rencontre de deux choses. C'est la rencontre d'un grand sujet et la rencontre d'un grand orateur. Parfois, il y a des rendez-vous ratés. Il y a des grands orateurs qui ne trouvent pas une cause et il y a des causes qui ne s'incarnent pas dans des grands orateurs. Mais aujourd'hui, on a évidemment Christiane Taubira que vous avez rappelé tout à l'heure dans son discours sur le mariage pour tous, même si elle est aujourd'hui un petit peu en retrait de la vie politique, elle reste une oratrice exceptionnelle. Et le président de la République actuel, pour dire les choses, est un très bon orateur. Il n'était pas forcément un extraordinaire tribun pendant la campagne électorale, où là, il faut aller vraiment s'égosiller un petit peu. Bon, voilà. Mais il en a tiré les conséquences. Et aujourd'hui, c'est un très bon orateur. Et ce qu'il a fait, indépendamment des questions partisanes sur les grands débats qui ont suivi la crise des Gilets jaunes, relevait d'une forme de performance oratoire absolument sensationnelle.
Alors vous vous moquez de notre époque, celle des éléments de langage inlassablement répétés dans un psittacisme narcotique. Autrement dit, vous en avez marre d'entendre les politiques radoter un petit peu ?
Oui, parce que souvent, en réalité, ils ne parlent pas, ils communiquent. Et il y a quelque chose qui a tué la parole politique, c'est la communication politique, parce qu'ils ne font rien d'autre que véhiculer des éléments de langage qu'ils reçoivent d'ailleurs d'un parti ou d'une institution. Et donc, ils en sont simplement les répétiteurs. Alors que parler, et c'est tous les orateurs que vous avez sélectionnés très justement dans votre sujet, avaient tous une singularité. C'est-à-dire qu'ils prenaient le risque de dire une parole personnelle et de dire, au-delà d'un message, une personnalité. Et aujourd'hui, on a parfois l'impression que dans un parlement, beaucoup se cachent un peu derrière un message et qu'ils n'osent pas exprimer une personnalité.
Sur le bout de la langue, un mot qui me brûle, un mot qui m'embrouille. La tête m'arrache les os, me griffe le cerveau, m'abîme de bas en haut. J'ai J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue. Sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue. Ton petit cœur qui tangue. Ton petit cœur qui tangue. Il y a sous ta peau comme un frisson qui me touche, un éclair sur ta bouche. Couche-moi près de toi. Non, je ne bougerai pas, même si tu ne m'écoutes pas. J'ai sur le bout de la langue ton petit cœur qui tangue. Sur le bout de la langue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue, ton petit cœur qui tangue.
Camille Bazbaz, sur le bout de la langue, on a voulu vous faire un petit clin d'œil, Bertrand Perrier, puisque c'est aussi le titre de votre livre paru chez Lattès. Sur le bout de la langue, c'est le mot qu'on cherche, le mot juste pour exprimer parfaitement une idée. Est-ce que les concours d'éloquence qui se multiplient depuis quelques années favorisent le goût des mots, ou est-ce que c'est l'aspect joute verbale, affrontement, arène qui plaît?
Non mais les deux plaisent et je me réjouis de ce fleurissement des concours d'éloquence un peu partout. Je dis juste une chose et une réserve là-dessus. Les concours d'éloquence, c'est très bien si c'est une vitrine et un encouragement à la parole. Ça peut aussi inhiber, parce que dans un concours d'éloquence, c'est toujours les plus doués qui gagnent. Et ça pourrait aussi avoir un effet contre-productif en voyant quelqu'un dans un concours d'éloquence briller. Quelqu'un pourrait se dire « je n'y arriverai jamais » et donc « je ne vais même pas essayer ». Donc je voudrais que les concours d'éloquence soient des locomotives plutôt que des inhibiteurs. Et pour cela, je crois qu'il faut aussi que dans les concours d'éloquence, on assume une diversité des messages, une diversité des formes. On doit pouvoir aussi parler sans prérequis et sans forme obligée, souvent, et notamment, je le dis, dans les concours d'éloquence d'avocat ou d'université de droit, il y a un formatage qui me paraît incompatible avec l'expression de la sincérité et de l'authenticité de la pensée. Si le concours d'éloquence est une occasion d'exprimer une révolte, une pensée, une conviction sincère, c'est formidable. Si c'est juste de la parole esthétique, d'apparat et artificiel pour gagner, ça n'a pas d'intérêt.
Alors justement, dans le premier film du rappeur Kery James, co-réalisé avec Leïla Sy, Banlieusard, qui vient de sortir sur Netflix, vous êtes Maître Mirabeau, président du jury qui doit départager deux élèves avocats finalistes du concours d'éloquence.
Bonsoir à tous. Je vous rappelle le sujet de cette finale. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? Pour l'affirmative, Madame Crèvecoeur. Pour la négative, Monsieur Traoré. Vous avez la parole.
L'État dans ma bouche, ce n'est pas vous.
Non, je n'accepterai jamais l'idée que l'État porte la responsabilité de tous mes maux.
L'État dans ma bouche, ce ne sont pas les riches seulement.
Accepter cette idée, c'est accepter de n'être que victime, car il faut une victime au gros.
L'État dans ma bouche, ce ne sont pas des blancs uniquement.
Accepter de n'être que victime, c'est quelque part ranger l'épée au fourreau. Victimisation passive, l'échec l'Algérie, s'en nourrit et en fait son terreau. Ma présence démontre la fausseté de votre prétendue équation. Banlieue plus pauvreté mènerait fatalement au cimetière ou à l'incarcération.
L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts moraux causés par des discriminations territoriales. Et oui, disons-le, raciales.
Je trouble vos fantasmes, moi, banlieusard à la peau ébène. Je le fais sans sarcasme, non, ma place n'est pas à la prison de Fresnes.
L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui, avec la complicité des médias, ont réussi à monter une partie des Français contre une autre, en manipulant froidement les conséquences, sans jamais s'intéresser aux causes. Cela porte une responsabilité.
Je ne laisserai ni à vous, ni à l'État le pouvoir de décider pour moi, victime ou soldat. Gardez bien en mémoire lequel de ces deux fut mon choix.
Bravo !
Joute verbale tendue entre Souleymane Traoré, l'élève de banlieue incarné par Djamé Diangana, et la jeune parisienne Lisa Crèvecœur interprétée par Chloé Jouanet. Bertrand Perrier, vous écrivez dans votre livre sur le bout de la langue, la parole est un marqueur social, géographique, culturel absolument redoutable. Mal parler ou pire, être incapable de parler est à la fois une souffrance et un handicap. Est-ce que c'est pour cela que vous avez eu envie d'enseigner, pas seulement dans les grandes écoles, mais aussi en Seine-Saint-Denis?
Oui, lorsque Stéphane de Freitas, qui a créé le programme Eloquentia, m'a proposé de rejoindre l'aventure en Seine-Saint-Denis, j'enseignais de façon assez confortable, je dois dire, à Sciences Po, à HEC, dans des universités de droit notamment. Et ça m'intéressait, à titre de défi aussi, de me confronter à ce public nouveau et, pour dire les choses, beaucoup plus exigeant, parce qu'il n'y a pas de clientélisme dans ce public. Si ça leur plaît pas, ils s'en vont. Alors que à Sciences Po, voilà, ils doivent avoir leur point à la fin du semestre et donc ils restent. Je fais pas de hiérarchie. Hein. Je dis juste que on doit être encore plus performant en tant qu'enseignant lorsque le public n'est pas captif. Et en effet, je le fais aussi pour lutter contre ces déterminismes sociaux qui naissent des capacités à prendre la parole. On est jugé sur bien d'autres choses. Hein. On est jugé sur la façon dont on s'habille. On est jugé sur son apparence. On est jugé aussi sur la façon dont on s'exprime. Et ça peut aussi vous enfermer.
Mais vous insistez sur un point. Vous ne faites pas de concessions sur la qualité de la langue.
Non, parce que je crois que un élève, ça s'élève, comme son nom l'indique, et donc je suis bienveillant parce qu'on n'obtient pas le maximum des gens en leur tapant dessus, mais je suis très exigeant et je ne leur concède rien sur...
Donc la tchatch, ça suffit pas.
Non, parce que la tchatch, c'est vraiment la quantité à défaut de la qualité. Et donc, je crois qu'au contraire, la parole, là où elle est percutante, et forte et convaincante, c'est quand elle est authentique et quand elle exprime au plus juste, grâce aux mots justes, justement, la conviction, la révolte que l'on a en soi.
Donc, le milieu d'où l'on vient n'est pas forcément rédhibitoire. Par exemple, si on commençait à travailler la prise de parole en public dès l'école primaire, vous pensez que ça changerait tout ?
Ah, je suis convaincu qu'on peut même le faire avant et que il faut le faire au plus tôt et que les anglo-saxons ont un temps d'avance sur nous de ce point de vue qui ont dédramatisé la prise de parole publique. Nous, en France, on est très fort pour tout dramatiser et pour tout mettre dans une spirale d'échec ou dans une angoisse de performance. Si c'est pas parfait, eh bien, ça n'existe pas. Eh bien non, il faut accepter que la parole n'est pas immédiatement parfaite et l'enseigner dès le plus jeune âge, lorsqu'elle est naturelle, lorsque le regard des autres ne pose pas de difficultés, lorsqu'il n'y a pas d'inhibition. Et donc, je crois en effet qu'il faut l'enseigner dès le plus jeune âge.
Et vous rappelez que c'est à la fin du 19e siècle que la France, elle, a fait ce choix de privilégier l'écrit.
Oui, en 1902, il y a eu une loi qui a supprimé la classe de rhétorique. Jusqu'en 1902, la classe de première actuelle s'appelait la classe de rhétorique et on y enseignait les grands discours, notamment de l'Antiquité. Et à l'époque, on est à la fin du 19e siècle, on est dans le positivisme, Auguste Comte, le scientisme, et on trouve pas ça très rationnel. On trouve que c'est un peu tirer les gens par la manche, par l'émotion, et on aime la rationalité, on aime la raison, on aime la science, et donc on n'aime pas l'oralité.
Alors, chaque chapitre de votre livre se clôt sur des conseils ou des idées de jeu pour s'entraîner à la prise de parole, pour enrichir son vocabulaire. Je vous propose de vous soumettre au petit questionnaire musical que vous suggérez au lecteur. Mais vous devez développer en une minute les raisons de votre choix. Donc, une question, le morceau que vous emporteriez sur une île déserte ?
Le morceau, alors vous ne m'avez pas préparé, je suis pris complètement au dépourvu et à brûle pour point par cette question. Et le morceau que j'emporterai sur l'île déserte, je pense que c'est la Barcarolle de Frédéric Chopin. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre toute vénitienne et toute italienne pour le polonais qu'est Frédéric Chopin. J'aime passionnément Chopin parce que il est moitié français, moitié polonais, moitié classique, moitié romantique, et il écrit à la toute fin de sa vie à Nohant, ce petit village de l'Indre où il vit avec George Sand, dans ce château magnifique, avec ses frondaisons, avec tous ses amis qui sont réunis par George Sand, Delacroix et tant d'autres. Et il est dans ce climat propice, protecteur, dans un cocon où elle le protège, et il peut déployer son génie dans cette barcarolle absolument sublime qui est vraiment l'œuvre aux confins de l'Italie, de la France, de la Pologne, à la fois rigoureuse, mais lancinante et langoureuse. Et il y a, je trouve, dans cette barcarolle à la fois quelque chose de très classique, quelque chose de très moderne. Donc écoutez cette barcarolle qui est un peu le testament de Chopin, c'est l'une de ses dernières œuvres et aussi l'une des plus belles.
Vous êtes mélomane, vous regrettez de ne pas avoir été ou ne pas pouvoir être mélophile, puisque le mot n'existe pas?
Oui, alors je trouve très surprenant, on dit qu'on est mélomane comme si c'était forcément une manie au sens où on est cocaïnomane, mais on n'est pas cocaïnophile et donc on n'est pas non plus mélophile, alors que on est discophile par exemple si on aime les disques. Et je trouve curieux en effet qu'on soit forcément mélomane, c'est-à-dire dans l'idée de la manie. J'ai pas l'impression d'être maniaque de la musique, j'adore ça, et je suis incapable d'en jouer, mais j'adore en écouter.
Merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir été notre invité. Sur le bout de la langue est paru chez Lattès et on passe un très très bon moment à vous lire. On retrouve à présent Pierrette Cruzadora pour sa chronique En bon terme.
En bon terme.
Et moi je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot.
Interprète.
Ça simplifiera les autres définitions.
Interprète.
Bonjour Pierrette.
Bonjour Chantal.
Vous êtes chef de la mission du développement et de l'enrichissement de la langue française au ministère de la Culture. Et vous allez nous démontrer, Pierrette, que vous partagez avec Bertrand Perrier la même exigence de clarté du vocabulaire.
Oui, parce que les experts de la commission d'enrichissement de la langue française viennent de clarifier le sens de plusieurs notions qui sont liées au rapport entre l'homme, la terre, la mer et le littoral. Vous savez que 60% de la population mondiale vit actuellement à moins de 60 km du littoral, océanique ou marin. Et cela provoque de nouvelles notions et donc une création lexicale dans les domaines environnement, aménagement et urbanisme. Et nous avons créé récemment un néologisme, le terme littoralisation. Littoralisation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il s'agit de se transformer en littoral? Non, en effet, il ne s'agit pas de se transformer en littoral. Il s'agit plutôt du processus de concentration le long des littoraux, de la population, des activités et des aménagements qui leur sont associés, dû à l'attractivité économique et résidentielle de ces zones. Ce terme qui au début avait pas beaucoup plu à l'Académie française a finalement donc été accepté, probablement parce que d'autres néologismes avaient été créés avant lui un peu sur le même modèle. En 2015, maritimisation, pour le rôle croissant joué par les espaces maritimes dans la sécurité d'un pays, ses approvisionnements et sa prospérité, ou la périurbanisation, c'est l'extension de l'urbanisation à la périphérie d'un espace urbain, qu'il ne faut pas confondre avec rurbanisation, le processus d'urbanisation progressive d'un territoire rural autour de noyaux d'habitat traditionnels.
Pierrette, est-ce qu'il existe dans ce domaine d'autres termes nouveaux sans équivalent étranger?
Oui, nous venons aussi de publier au Journal officiel deux termes. La poldérisation, qui consiste en la conquête de terres sur la mer, un estuaire, une zone humide, un lac ou un étang, obtenue par endiguement, assèchement ou parfois remblaiement. Le terme polder est issu du néerlandais, il veut dire terre endiguée, il n'a pas d'équivalent en anglais. Au Moyen-Âge, les Pays-Bas ont gagné des centaines de milliers d'hectares sur la mer et on voyait dans ce pays beaucoup de moulins à vent qui était là pour drainer l'eau par pompage pour la faire ensuite s'évacuer dans des canaux. Alors aujourd'hui, quand on poldérise une zone, on fait également l'opération inverse qui consiste à la dépoldériser, c'est-à-dire qu'on permet le retour de la mer dans les polders à travers des écluses ou des brèches volontaires. Conclusion, elle est retrouvée quoi ? L'éternité, c'est la mer aller avec le soleil.
Pierrette Cruzadora, merci beaucoup, à bientôt. De vive voix touche à sa fin. Merci encore Bertrand Perrier.
Merci à vous.
Merci à Guillaume Ploquin qui a réalisé cette émission et à Yaël Co et Véronique Durand qui m'ont aidé à la préparer. Demain, nous parlerons de théâtre, de poésie, d'Aragon et d'Elsa Triolet avec Ariane Ascaride et Didier Bezas pour leur spectacle. D'ici là, portez-vous bien.